Bonjour, merci d'être à notre rendez-vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier prix Goncourt, L'Anomalie, de Hervé Le Tellier, qui a été publié chez Gallimard donc, en 2020. Arrêtons-nous un moment sur le Goncourt. C'est bien sûr le grand prix littéraire français. Oh, c'est un prix prestigieux hein, pour l'auteur, parce que quand un auteur reçoit le Goncourt, je dirais qu'il entre dans le temple de la littérature. Mais surtout, le Goncourt a un impact formidable sur les ventes. Entre 2005 et 2009, les lauréats du Goncourt ont vendu en moyenne 400 000 exemplaires, chacun. Ben, ceci étant, ce n'est pas parce qu'un livre a le Goncourt qu'il faut l'acheter, parce que ce n'est pas toujours un critère de qualité. Et puis, on dit que souvent c'est joué d'avance, le prix Goncourt. On dit l'affaire entendue entre les grosses maisons d'édition. Un jour, une année, c'est Gallimard, une autre année, ce sera Grasset, etc., etc. Mais quand même, le prix Goncourt peut nous offrir de très beaux moments de lecture. Les beaux moments de lecture, je citerai L'Amant de Marguerite Duras, Le Testament français d'André Imakin, Sous le soleil d'Escorta, Laurent Godet, Singh et Sabour, Atik Rahimi, Trois femmes puissantes de Marine Diaye. Et puis, je trouve que ces quatre dernières années, les livres qui ont été primés sont des livres vraiment de bonne qualité, de très grande qualité même. L'Ordre du jour d'Éric Villard, Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, de Jean-Paul Dubois, et puis donc cette année, L'Anomalie d'Hervé Le Tellier. Mais le Goncourt n'a pas toujours fait le bonheur de son lauréat. Jean Carrière, qui a écrit L'épervier de Maheu, c'est dans les années 70-72 à peu près, il a vendu 2 millions d'exemplaires en France. C'est énorme. Mais après la fortune et la gloire, il a vécu un petit peu l'enfer. La dépression, le découragement, le harcèlement médiatique, et puis il est tombé dans l'alcool. Et puis surtout, il n'a pas pu continuer à écrire. Il avait peur de décevoir ses lecteurs. Il pensait qu'après avoir écrit L'épervier de Maheu, donc qui avait eu un tel succès, eh ben, il n'arriverait plus à écrire. Ben, il aurait suffi peut-être de dire à Jean Carrière que bien des auteurs, des grands auteurs, n'ont écrit qu'un seul grand livre, qu'un seul chef-d'œuvre. Et un grand livre, c'est déjà beaucoup en une vie. Regardez, rappelez-vous, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, Harper Lee, elle n'a écrit que ce livre-là. Émilie Brontë, elle n'a écrit que Léo de Hurlevent. Sa sœur Charlotte Brontë, elle n'a écrit que Jenner. Un homme comme Salinger, qui a eu un tel succès avec L'Attrape-cœur. Margaret Mitchell, Autant en emporte le vent. C'est pourtant un succès phénoménal, mondial. Le grand Moll, Alain Fournier. Mais lui, peut-être qu'il n'a écrit qu'un seul livre parce qu'il est mort à la guerre. Enfin voilà, donc il y a toute une histoire, je dirais, un contexte autour du prix Goncourt. Alors Hervé Le Tellier donc a eu le prix Goncourt cette année. Il est né en 1957. Au départ, il a fait une carrière de mathématicien, puis il est devenu journaliste, et puis après, il a décidé d'écrire et il a écrit de nombreux romans, des nouvelles, des poésies, du théâtre. Il fait partie de l'Oulipo, l'Oulipo, O-U-L-I-P-O, l'ouvroir de littérature potentielle, que l'on désigne par son acronyme l'Oulipo. C'est un atelier de lecture expérimentale qui a été créé en 1960 et qui continue à l'heure actuelle. Alors c'est un atelier, je dirais, de littérature où les auteurs aiment jouer avec les règles de la langue. Et ils essaient d'inventer de nouvelles façons de s'exprimer, de nouvelles formes de langage. Voilà, l'Oulipo. Alors, venons-en à L'Anomalie. Le livre commence par 8 chapitres, assez courts, quelques pages, dont chacun est construit autour d'un personnage, donc un personnage différent pour chaque chapitre. Et ce qui est particulier, c'est que chaque chapitre est écrit dans un style différent qui le place dans un genre différent. Le tellier nous dit « J'ai construit le livre en Scooby-Doo. Chaque personnage est un fil de couleur qui a son histoire et son style propre. » Je vous lis la première page, les deux premières pages du premier chapitre, intitulé « Blake ». Chaque chapitre a le nom du personnage. Tuer quelqu'un, ça compte pour rien. Faut observer, surveiller, réfléchir, beaucoup, et au moment où, creuser le vide. Voilà, creuser le vide. Se débrouiller pour que l'univers rétrécisse. Rétrécisse jusqu'à se condenser dans le canon du fusil ou la pointe du couteau. C'est tout. Ne pas se poser de questions, ne pas se laisser guider par la colère, choisir le protocole, agir avec méthode. Blake sait faire ça, et depuis tellement longtemps qu'il ne sait plus quand il a commencé à savoir. Après, le reste vient tout seul. Blake fait sa vie de la mort des autres. S'il vous plaît, pas de leçon de morale. Si on veut discuter éthique, il est prêt à répondre statistique. Parce que lorsqu'un ministre de la Santé coupe dans le budget, qu'il supprime ici un scanner, là un médecin, là encore un service de réanimation, il se doute bien qu'il raccourcit de pas mal l'existence de milliers d'inconnus. Responsable, pas coupable, air connu. Blake, c'est le contraire. Et de toute façon, il n'a pas à se justifier, il s'en fout. Tuer, ce n'est pas une vocation, c'est une disposition, un état d'esprit si l'on préfère. Blake a 11 ans et ne s'appelle pas Blake. Il est à côté de sa mère, dans la Peugeot, sur une départementale près de Bordeaux. On ne roule pas si vite, un chien traverse la route, la secousse les déporte à peine, la mère crie, freine, trop fort, le véhicule zigzague, le moteur cale. « Reste dans la voiture, mon chéri. Mon Dieu, reste bien dans la voiture. » Blake n'obéit pas. Il suit sa mère. C'est un collet au poil gris. Le choc lui a défoncé le thorax. Son sang s'écoule sur le bas-côté. Mais il n'est pas mort. Il geint, on dirait la plainte d'un bébé. La mère court en tous sens, paniquée. Elle pose ses mains sur les yeux de Blake. Elle balbutie des mots sans suite. Elle veut appeler une ambulance. « Mais maman, c'est un klebs, c'est juste un klebs. » Le collet halète sur le bitume fissuré. Son corps brisé, tordu, adopte un angle bizarre. Il est agité de soubresauts qui vont en s'affaiblissant. Il agonise sous les yeux de Blake. Et Blake regarde avec curiosité la vie quitter l'animal. C'est fini. Le garçon mime un peu la tristesse, enfin ce qu'il imagine être la tristesse, pour ne pas troubler sa mère. Mais il ne ressent rien. La mère reste là, glacée, devant le petit cadavre. Blake s'impatiente. Il la tire par la manche. « Maman, allez, ça sert à rien de rester là, il est mort !» « Là, on y va, je vais être en retard au foot. » Tuer, c'est aussi des compétences. Blake découvre qu'il a tout ce qu'il faut le jour où son oncle Charles l'emmène chasser. 3 coups, 3 lièvres. Une espèce de don. Il vise vite et juste. Il sait s'adapter aux pires carabines pourries, aux fusils les plus mal réglés. Les filles le traînent dans les fêtes foraines. « Et s'il te plaît, je voudrais la girafe, l'éléphant, la Game Boy. Oui, vas-y, encore. » Et Blake distribue des peluches, des consoles de jeux. Il devient la terreur des stands de tir. Avant de décider de faire dans la discrétion. Blake aime bien aussi ce que lui apprend l'oncle Charles. Égorger les chevreuils, dépecer les lapins. Qu'on se comprenne bien. Il ne prend aucun plaisir à tuer, à achever l'animal blessé. Ce n'est pas un vicelard. Non, ce qui lui plaît, c'est le geste technique, la routine sans faille qui s'installe à force de répétition. Et voilà comment Blake est devenu un tueur en série qui prend plaisir à tuer. En une douzaine de pages, on va le découvrir, comment il organise sa vie, parce qu'il ne dit rien, bien entendu. Il a une double vie, marié, père de deux enfants, mais il ne dit rien à sa famille. Alors voilà, le premier chapitre est un petit roman noir. Le deuxième chapitre a pour personnage un écrivain qui n'a pas une grande réputation, qui part un jour aux États-Unis pour recevoir un prix et qui écrit en quelques semaines un livre qui se nomme « L'anomalie ». Tiens, tiens, est-ce que ça aurait quelque chose à voir avec l'anomalie d'Hervé Le Tellier ? Le troisième chapitre, par contre, c'est plutôt un petit roman sentimental. André, un architecte d'une cinquantaine d'années, est amoureux de Lucie. Mais Lucie est plus jeune que lui. C'est une histoire d'amour qui n'a eu qu'un temps, puisque après un voyage à New York, c'est elle qui ressent comme une lassitude qui va l'éloigner de lui. Peu à peu, face à l'exaltation d'André, à ses bras qui veulent l'enserrer, à ses baisers qu'il lui inflige à tout instant, devant ses amis à qui il veut absolument la présenter, comme le butin d'une bataille qu'il aurait gagnée, elle recule. Pourquoi les chats qui attrapent les souris refusent-ils de les laisser vivre ? Elle n'était pas disposée à un tel envahissement. Elle aurait voulu moins d'impératifs, un engagement plus lent et plus serein. L'avidité de ses mains d'homme l'effraie, leur convoitise oppressante interdit à son propre désir de naître. Lui ne veut pas comprendre, et cette fragilité qu'André masquait si bien devient tangible. Et non, elle ne veut pas devoir le rassurer. Non, elle n'a pas à se plier à son appétit tyrannique. Elle n'a pas à contenter son narcissisme blessé, fût-ce par l'âge. Elle n'a pas non plus à supporter ce regard de chiot de chenille qui pleurniche des « prends-moi, prends-moi ». Pourquoi se refuse-t-il à voir qu'il la piège dans ses bras, dans son lit ? Pourquoi faut-il qu'elle se sente coupable de se refuser à lui, quand c'est bien la dernière chose qu'elle veut, avoir le moindre devoir ? On passe au chapitre 4. David a rendez-vous avec son frère Paul, un oncologue réputé. Il va le voir dans son cabinet. Tu veux un café, David ? Un thé ? Café. Paul glisse une capsule dans le percolateur, pose une élégante tasse italienne sous la goulette, trouve le moyen d'éviter quelques secondes encore le regard de son frère. Il devine que David, en l'entendant prononcer son prénom trop de fois, a compris. Dans les films de guerre, lorsqu'un soldat pisse le sang et que le sergent lui dit « Ça va aller, Jim, tu vas t'en tirer, Jim », ce n'est jamais bon signe. La rhétorique bienveillante, l'expresso italien avec sa mousse onctueuse, cette façon de repousser sans cesse le moment de parler, tout ça annonce le pire. Tiens. David hoche la tête, accepte la tasse machinalement, la pose aussitôt sur le bureau. Vas-y, je suis prêt. Et quelques instants après, il entend le verdict de Paul. C'est ce que je craignais. La tumeur que tu as sur la queue du pancréas, à l'opposé de l'intestin grêle, ici, est une tumeur maligne, cancéreuse. Et la tumeur n'a pas seulement envahi les vaisseaux sanguins et les ganglions voisins, il y a des métastases au foie et à l'intestin grêle. Cliniquement, tu en es au stade 4. Stade 4, autrement dit, il est trop avancé pour qu'on puisse envisager une pancréatectomie distale, c'est-à-dire retirer le pancréas et la rate. David accuse le coup, il respire mal. Paul avait préparé un verre d'eau, il lui tend. Et à la fin du chapitre, on retrouve David dans une chambre d'hôpital. Et l'auteur nous dit, une chambre qu'il libérera sans doute dans quelques jours. Un humour caustique qu'on va retrouver assez souvent chez Le Tellier. Alors dans les chapitres qui suivent, deux mots sur chacun des personnages, on va lire l'histoire d'une petite fille, Sophia. Elle a perdu sa grenouille, et sa grenouille était vraiment son amie. Tous les soirs, avant de s'endormir, elle lui racontait ses journées. L'attachement de la petite fille à sa grenouille, ajouté à la violence de son père, qui est revenu sous peu d'Afghanistan, nous laisse présager des moments, des événements douloureux. Et puis, sur un autre chapitre, cette fois-ci, on part en Afrique pour rencontrer Slim Boy, un jeune chanteur nigérian. Mais qui a un gros problème, il est homosexuel. Et vous savez qu'en Afrique, enfin dans certains pays, au Nigeria en particulier, l'homosexualité n'est pas du tout acceptée. Donc il doit cacher son homosexualité s'il ne veut pas être rejeté par la société. Donc là, on a plutôt un chapitre social. Hein. Il y aura encore un autre chapitre avec comme personnage une avocate. Ce qui est commun à chaque chapitre, c'est qu'à la fin, il y a une ou deux phrases qui cassent l'histoire et nous font penser que quelque chose d'imminent, quelque chose d'inattendu va arriver. Par exemple, pour le tueur en série, c'est « À 30 mètres de lui, un homme à gauche l'observe, le visage fermé. » Fin du chapitre. Quant à Lucie, elle voit arriver la police qui a un mandat d'amener, alors qu'elle ne s'y attend pas du tout, bien sûr. Quant à l'écrivain, il enjambe le balcon, en tombe, ou bien s'en jette. Il ne laisse aucune lettre. Dans la chambre où David vit ses derniers instants, deux hommes entrent et prennent des photos du mourant. Pourquoi ? On ne sait pas. La petite Sophia, le matin, elle voit arriver une policière qui vient la chercher pour l'emmener. « Mais ma grenouille !»« Mais on emmène aussi ta grenouille !» Voilà, et la police vient aussi chercher l'avocate au chapitre 6. À tous ces personnages s'ajoute le commandant Markle, un pilote d'un Boeing 787. À tous ces personnages s'ajoute le commandant Markle. C'est un pilote d'un Boeing 787 de la compagnie d'Air France. C'est dans le chapitre 5 qu'on le rencontre, aux commandes du vol AF-006 Paris-New York, d'Air France donc. Un vol qui va se révéler bien particulier. L'avion se trouve au sud de la Nouvelle-Écosse, donc prêt à atterrir à Kennedy Airport, quand pilote et copilote voient surgir devant eux la barrière d'un immense cumulonimbus qui s'étend sur des centaines de kilomètres. Un orage d'une violence inouïe, une muraille d'eau et de glace, va faire vivre aux passagers la peur de leur vie. L'avion connaît 10 interminables secondes de chute libre avant de pénétrer dans le cumulonimbus au pire endroit, au sud-ouest de la colonne, avec une inclinaison effarante, un angle de 30 degrés que lui impose l'assistance au pilotage qui a pris le relais des commandes manuelles. Tout de suite, le Boeing est roulé dans les courants tourbillonnants du nuage. Et tout de suite aussi, le cockpit s'allume, car c'est la nuit. Un noir de suie et un fracas épouvantable. Des centaines d'énormes grêlons mitraillent les vitres, en laissant ici et là un impact dans le verre blindé. Quelques instants qui paraissent sans fin. Et malgré les rafales de la tornade, le Boeing retrouve le courant ascendant chaud et un peu de portance. Cette fois-ci, c'est une intense sensation d'écrasement de bas de grand 8. Et puis, comme par enchantement, l'avion sort de la lessiveuse. La lessiveuse, c'est le titre du chapitre. Un soleil éblouissant revient dans le cockpit. Le silence se fait de nouveau. Les perturbations sont aussitôt derrière eux. Et à la fin du chapitre, ici comme dans les autres chapitres, un détail va faire naître le suspense. La tour de contrôle de Kennedy Airport ne connaît pas ni l'avion, ni son pilote. Ils n'ont aucun renseignement sur eux. Alors l'avion a subi de lourds dommages, bien sûr, avec un orage pareil, mais il parvient quand même à atterrir sur le tarmac de l'aéroport de Maguire, dans le New Jersey. Les passagers descendent de l'avion, les membres d'équipage aussi, bien vivants. Ils sont rassurés, mais bien sûr dans un état lamentable, on le comprend. Mais surtout, ils ne se doutent pas qu'une faille née sans doute pendant la tempête va changer complètement leur vie. Car c'est alors que l'anomalie va se révéler. Une anomalie que je vous laisse découvrir. Je ne veux pas vous dire ce qu'est cette anomalie. Le Tellier nous en donne une définition de l'anomalie. J'ai une culture fondée sur les mathématiques. Pour moi, l'anomalie, c'est une rupture dans un champ de continuité, c'est le réel. Alors cette anomalie va nous entraîner dans un questionnement, je dirais, sur le monde dans lequel nous vivons. Un monde où l'informatique a tous les pouvoirs. Un monde inconcevable où chacun des personnages va rencontrer son double. On est bien sûr à la limite de la science-fiction. Un monde qui remet complètement en question notre réalité d'être vivant. Mais le Tellier ne se prive pas, je dirais, d'aborder de multiples sujets associés à notre monde, même si, par certains côtés, on est dans la science-fiction. Alors les sujets qu'il aborde, il y en a de nombreux. La maladie, la guerre, la mort, la pédophilie, l'homosexualité, les problèmes environnementaux, la religion, ou plutôt les religions, la science bien sûr. N'oublions pas qu'il était mathématicien, le Tellier. La science, il va lui donner le beau rôle, je dirais, dans ce livre. Et puis des sujets plus intimes sur l'introspection, l'identité, la connaissance de soi, celle des autres aussi. Un livre thriller, ça c'est sûr, parce qu'il y a un suspense terrible tout au long du livre. Science-fiction, je ne sais pas, je mets un point d'interrogation. Il y a quelques points qui font penser que c'est un livre de science-fiction. En tout cas, ce sont des sujets très sérieux que le Tellier développe. Des personnages très forts, mais avec lesquels le Tellier semble parfois jouer avec une forme d'humour souvent caustique, qui nous rappelle qu'il est membre de l'Oulipo. Alors je terminerai par la lecture d'un court extrait. C'est un passage qui peut-être aiguisera votre curiosité et vous fera vous poser des questions, mais qu'est-ce que c'est que cette anomalie? Alors c'est Wesley, un universitaire logicien, qui s'adresse au président des États-Unis par écran interposé. Quel président? Eh bien, le président actuel, celui dont tout le monde parle actuellement. Wesley ne regarde pas l'écran, où le président lève les yeux au ciel et poursuit. L'important est ceci. Une civilisation hypertechnique peut simuler un millier de fois plus de fausses civilisations qu'il n'y en a de vraies. Ce qui signifie que si on prend un cerveau qui pense au hasard, le mien, le vôtre, il a 999 chances sur 1000 d'être un cerveau virtuel et une sur 1000 d'être un cerveau réel. Autrement dit, le « je pense donc je suis » du discours de la méthode de Descartes est obsolète. C'est plutôt « je pense donc je suis presque sûrement un programme » Descartes 2.0, pour reprendre une formule d'une topologiste du groupe. « Vous me suivez, président ?» Le président ne répond rien. Wesley l'observe qui garde son air buté et furieux. Il conclut. « Voyez-vous, monsieur le président, je connaissais cette hypothèse et jusqu'à ce jour, j'estimais à 1 chance sur 10 la probabilité que notre existence ne soit qu'un programme sur un disque dur. Avec cette anomalie, j'en suis quasiment certain. » Cela expliquerait par ailleurs le paradoxe de Fermi. Si nous n'avons jamais rencontré d'extraterrestres, c'est que dans notre simulation, leur existence n'est pas programmée. Je pense même que nous sommes confrontés à une sorte de test. Pour aller plus loin, c'est peut-être parce que nous pouvons désormais envisager l'idée d'être des programmes que la simulation nous propose ce test. Et nous avons intérêt à le réussir, ou du moins en faire quelque chose d'intéressant. Et pourquoi, demande Sylvie Herrea. Parce que si nous échouons, les responsables de cette simulation pourraient bien tout éteindre. C'était donc L'Anomalie d'Hervé Le Tellier, un roman publié chez Gallimard en 2020, lauréat du prix Goncourt 2020. Merci pour votre écoute. À bientôt.